si on commence la paracha au début, on va jamais très très loin, mais c'est tellement riche. Alors, je suppose que les autres années, je ne me rappelle pas, mais les autres années, j'ai déjà parlé du début de la paracha plusieurs fois. On va avancer un tout petit peu et on va prendre le shlishi, la troisième montée. Le pasuk dit, bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous le raconter encore une fois. Vayi, vayami, ma'em, vayigdal Moshe, vayetse lechav, vayar besivlotam, vayar ish mitzrim akei shivrim echav, etc. Vayigdal, donc, en fait, vayigdal Moshe. Donc Moshe a grandi. Il est déjà marqué une fois à Igdal à Yalet. L'enfant a grandi, mais là c'était au moment du sevrage. Au moment du sevrage, il était chez sa vraie mère, qui était aussi sa nourrice. Quand il était sevré, la princesse Bithya l'a prise avec elle au palais. Et elle l'a élevé comme son fils. Elle l'a présenté et élevé comme son fils. Et Paro n'avait pas de fils. Et sa fille, là, elle a un fils. Donc, Moshe, le fils, il va devenir Rigdal Moshe. Il devient quasiment le prince héritier. Et en tant que prince héritier, il est éduqué, il a accès à toute la culture égyptienne, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui maintenant, il baigne depuis son sevrage dans la culture égyptienne. Et maintenant, on nous dit Vayetse Elechav. Il est sorti de son palais Elechav. Et il est allé vers ses frères. Donc ça veut dire que malgré tout le temps qu'il a, les années qu'il a passées comme prince héritier, en fait, il considère encore que ces gens qui sont les esclaves sont ses frères. Donc il y a une trace de sa prime enfance, il reste qui est marqué et il se considère comme un Hébreu, en fait. Il considère les Hébreux comme ses frères. Un prince égyptien, il n'aurait même pas vu les esclaves. C'est quand il est négligeable, il voit rien de ces petites choses. Lui, il sort et il les voit comme ses frères. Et à partir du moment où il les voit comme ses frères, alors Vayar Besivlotam, il voit leur souffrance. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Vayar Besivlotam? Il a vu leur souffrance. Rashi dit, Natan Enav Velibo Liot Metzar Alehem. C'est pas qu'il a regardé, il a observé. Nathan Enav Velibo, c'est-à-dire en fait, il s'est identifié à eux, il a souffert de leur souffrance en quelque sorte. Donc il a voulu partager leur souffrance. Donc il a regardé les conditions dans lesquelles ils vivaient. Volvé, il avait raconté que un jour, il est allé voir un malade qui était assez paralysé. Et quand ils sont sortis, la dame Gadol qui était avec lui, lui a demandé, il a dit, mais combien de fois il se retourne dans son lit avant qu'il s'endorme? Et le Mashgiach lui a dit, mais qu'est-ce que ça change si c'est 5 ou 6 fois? Alors il lui a dit, ce pauvre malade, pour se retourner, il a besoin de 3 personnes pour le retourner. C'est ça, arriver à se mettre à la place de l'autre. Il n'y a que quelqu'un de grand qui puisse ressentir dans le détail les souffrances de l'autre. Si on n'est pas un grand homme, on n'arrive même pas à ressentir ça. On s'appelle Nosé Beol Im Chavero, c'est-à-dire porter la charge avec l'autre. Ce n'est pas l'encourager pour qu'il la porte bien tout seul. C'est prendre une partie de la charge. Ramban, sur ce verset, il dit Vaigdal Moshe Vayetse Elechav Shegadal Ve'ayal Ish. C'est-à-dire, il est devenu un Ish. Il est devenu un homme, en fait. Kimitrila Ama, au début, on a dit Vaigdal Ayaled. L'enfant a grandi. Ça, c'est jusqu'à son sevrage. Ensuite, comme je vous ai dit, il était le fils de la femme, de la fille de Paro. Et donc, il va se tenir devant les rois, etc. Et ensuite, donc, maintenant, il devient grand au point de devenir un ishdat, quelqu'un qui a du discernement. C'est une nouvelle traduction du mot gadol, un homme qui a du discernement. Ça ne suffit pas d'être intelligent. On peut être intelligent, mais être un crétin dans les relations humaines. Le Ramban dit, et via tout le bat paro, va il a le ben, qui l'ifne mlachim mityatsev, parce qu'il va devoir se tenir devant les rois. Moshe, comme je dis, il a dû apprendre et s'habituer à se conduire royalement. Le Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit que c'était Menachemim que Moshe est grandi dans le palais de Paro. Parce qu'il fallait qu'il grandisse, mais qu'il ne grandisse pas avec une mentalité d'esclave. Pour sortir les Bnei Israël de l'esclavage, il fallait que lui n'y soit plus. Pas simplement formellement. Et qu'il n'ait pas une mentalité d'esclave. Il a vu Ish Mitzri, Maké, Ish Ivri, mais Echav. Il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu. Un Hébreu qui était un des frères de Moshe. Vaifen Kovacho, a priori, il a regardé à gauche, à droite. Vayar Kienish, il a vu qu'il n'y avait personne, aucun témoin. Vayar et Amitsri, Vait Meneu Bachol. Alors il a frappé, il a tué l'Égyptien et il l'a enfoui dans le sable. Alors Rachidi, Vayar Kienish. D'abord, Vaifen Kovacho, il a regardé, Rashi dit, Ra ma salo babait, ma salo basade. Le fils plutôt, c'est il a regardé à gauche et à droite. L'Égyptien, c'était un capot qui, le matin, faisait se lever les esclaves et les envoyait travailler. Et en fait, il a eu des vues sur la femme de l'un d'entre eux, donc il l'a envoyé travailler. Et quand l'autre est, donc il est allé le réveiller pour le faire se lever. Et quand l'Hébreu est sorti de chez lui, il est parti travailler. Lui, il est entré. Et la femme, elle a pensé que c'était son mari qui avait oublié quelque chose, qui revenait. Ensuite, lui, il est venu et il a violé cette femme. Mais ensuite, l'Hébreu, il s'est rendu compte de ce qui s'était passé. Et quand l'Égyptien a compris que l'Hébreu avait compris ce qu'il avait fait, il a passé toute la journée à le frapper, vraisemblablement, il voulait le tuer pour qu'il n'y ait pas de témoin, quoi, pour que la chose ne se sache pas. Les Égyptiens, probablement, n'avaient pas le droit de violer les esclaves. Donc on dit, voilà, quand le midrash de Vaifen Kovacho, il a regardé à gauche à droite, ça veut dire, en fait, il a bien compris ce qui se passait, et donc il a décidé qu'il méritait la mort, cet Égyptien. Vayar qui est niche, et maintenant, avant de le tuer, il a regardé qui est niche, et Rashi dit, qui est niche, a-t-il la tzet mimen le shit gayer. Il a regardé dans la descendance de cet Égyptien s'il n'y avait personne qui allait se convertir. Et il a vu que personne n'allait se convertir. Seulement à ce moment-là, il a décidé, il l'a tué. Le roi Mizrahi, il dit, si Moshe Rabbeinu a décidé, c'est un psak, que cet Égyptien est Chayav Mita. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de s'occuper de savoir s'il y a un guerre qui va sortir de lui ou pas? Il est Chayav Mita, comme tous les gens qui sont Chayav Mita. Quand le tribunal condamne quelqu'un, le tribunal ne sait pas s'il y a quelqu'un de très bien, qui est un grand Talmid Chacham, qui va sortir de cette personne qu'il est en train de condamner à mort. Et il répond que comme Moshe Rabbeinu, son psak, c'est Alpi de voix, comment il a pu vraiment comprendre ce qui s'était passé. Psak Alpi de voix, ça est l'itrachev et dvarimel. Quand on est possèque Alpi de voix, il faut tenir compte de tout ce qu'on peut savoir par une voix. Et donc ça veut dire que si il avait vu que au bout de, je sais pas, 10 générations, quelqu'un de bien allait sortir dans la descendance de cet Égyptien, il ne l'aurait pas tué. Le deuxième jour, il est ressorti. Il y a deux juifs qui se battent. Il y en a un qui apparaît comme étant le rachat. Et Moshe lui dit, Lamata Kerecha. Pourquoi tu frappes ton prochain? Alors l'autre lui a répondu, Mi Samcha Leish, Sarv Shofet Alenu. Alors, Geni Ata Omer, Kacher Arakta et Amitsri, Vaira Moshe Vayomar, Achen Noda Hadavar. Alors ici, c'est énorme le contenu de ce verset. Donc, il y a deux juifs qui se battent. Il leur dit, pourquoi tu le frappes? Rashi dit, Afalpi Sheloikaou. Il n'avait pas encore frappé, mais il a levé le bras pour le frapper. Il est déjà appelé Racha. L'autre lui a répondu, Mi Samcha le Ish. Moshe Rabbeinu était encore très jeune, en fait. Et l'autre lui a dit, mais tu n'es même pas un homme encore. Qui es-tu, là, pour votre anar? Alors, Geni Ata Omer, est-ce que tu attends Omer de me tuer? Alors, Chazal Niz Mikan, Anul Medim She'arago Beshem Amforash. Ici, on voit que Moshe Rabbeinu l'a tué en utilisant le nom divin. Parce qu'il, Omer, a dit, tu vas dire quelque chose, tu vas dire une parole ou un mot qui va me tuer, c'est comme ça que tu veux me tuer. Bon. Alors, à ce moment-là, donc il le dit, je sais bien que tu as tué l'Égyptien. Alors, à Yira Moshe a eu peur. Alors, Rachid dit, d'abord, il a eu peur, effectivement, il a compris que s'il y a quelqu'un qui le sait, il a donc tué un Égyptien, ça va faire tomber complètement sa couverture, etc. Tout le monde va, donc Paro va mal le prendre. Le Midrash, c'est pas pour lui qu'il a eu peur. Daag, lo, al-Sherab, Israël, Rechaim, Dalturin. Il est devenu très soucieux, il a eu très peur, parce qu'il s'est dit, si c'est comme ça, Shema enam ruim le Igael. S'il y a parmi eux des délateurs, alors ils méritent peut-être pas d'être sauvés. C'est ça la peur de Moshe. S'il y a des délateurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple. La délation, ça casse l'unité du peuple. Et donc il n'y a plus de peuple. Ce n'est pas des individus qui doivent sortir d'Égypte. Ils ne sont pas tellement peuple quand ils sortent, mais il faut un petit peu peuple, quoi, quand même. S'il y a des délateurs, alors Moshe Rabbeinu n'est pas sûr du tout qu'il mérite de sortir. Et il dit, « Achen noda davar. » La chose est sue. Alors Rachid dit d'abord, « Kemashmao, c'est vrai, bon. » Elle est sue, donc si ça se sait, parole saura aussi. Mais Rachid rapporte le Midrash, Noda lo hadavar, quelque chose vient de lui être connu, c'est-à-dire il comprend quelque chose. Je comprends avec ça quelque chose. Il dit parce que Ayakit Tama alav, parce que j'avais toujours un problème, dit Moshe. Ma chatu Israël mikol shivim umot liot. Pourquoi les Bnei Israël, parmi tous les 70 peuples, eux, ils sont réduits à ce travail dégradant, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'avais l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice. Aval roé ani shem roim lekach. Mais je vois qu'ils méritent ce qui leur arrive. Toujours la délation. Donc, deux choses. Il dit, d'une part, je comprends avec la délation ce qui leur arrive, et d'autre part, j'ai très peur qu'ils ne méritent plus d'être sauvés, parce qu'il n'y a plus de peuple. Le Ramban, il dit que quand Moshe est sorti du palais de Paro, il avait 12 ans. Le Rav Volbe, il avait posé une question ici. D'où est-ce que Moshe aurait connu le Shema Mforach pour le tuer? Rashi dit qu'il a utilisé le Shema Mforach. Mais d'où il le connaissait? Alors en fait, il avait répondu à sa question. Dans le Sefer Bereshit, il avait déjà répondu à la question. Il avait, quand on a parlé quand Paro a nommé Yosef Tzofnat Paneach, alors le Targum dit Tzofnat Paneach Gavra Demitamran Galian Le. C'est-à-dire, c'est un homme auquel on dévoile des secrets. Il vit dans un monde très, très élevé ou très profond. Et par conséquent, son regard sur le monde n'est pas un regard superficiel. Tzofnat Paneach, c'est ça, la traduction. Il voit les choses en profondeur. Et là, à ce moment-là, il avait dit que dans la Gemara, dans Chagiga, la Gemara, elle dit comment est-ce qu'on enseigne la Kabbale. Alors on dit « Mosrin lo raché prakim ». On lui enseigne les têtes de chapitre, en quelque sorte. « Mikan ve'elach, imu chacham mevin bidato ». Et avec les têtes de chapitre, s'il est un chacham, il va comprendre tout le reste. La question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver par soi-même. Il dit que chez Arizal Yavo, Yagid Lanu, Ezer Emes Bemila Achat ou Beot Achat, même si le Arizal venait et nous disait une allusion dans un mot ou dans une phrase, dans une lettre. Comment on va comprendre, comment est-ce que nous on va comprendre des choses qu'on n'a jamais entendues? Il dit, car, gam Moshe Rabbeinu she'arag et amitzri b'shem amforash, de la même manière, Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien avec le Shem Hashem, le premier jour, donc, oui, quand il est sorti de chez la maison de Paro, d'où est-ce qu'il connaissait le Shem Hashem? C'est sûrement qu'il ne l'a pas appris chez Paro. Adam Shelomed, im sechel, vim lev, tsarich rak rashe prakim ve'ashar u mevin midato. Il dit, si on étudie avec, avec tout son intelligence et tout son cœur, on n'a besoin que des têtes de chapitre, le reste, on va comprendre tout seul. Nous, on a l'habitude d'étudier comme une des machines, sans réfléchir. Toujours l'expression, c'est Hamor Nosse Sfarim, un âne qui porte des livres. Les choses, elles n'entrent pas dans le cœur. Le cœur et le cerveau, ils restent très limités. Le cœur ne comprend pas, le cerveau, il reste petit. Les kabbalistes, ils appellent ça Katnout de Mouchin, la petitesse des cerveaux. Donc ça, voilà ce que lui, il a répondu. Il a répondu à sa question, c'est qu'en réalité, si on travaille sérieusement, on peut le trouver. C'est vrai que si ce n'était pas possible, ça ne veut rien dire qu'on va lui donner les têtes de chapitre et il va comprendre tout seul. C'est bien qu'on peut y arriver. Si quand Datan et Aviram ont dit à Moshe, est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ça veut dire, bon, ils le connaissaient, ça veut dire, ou bien eux, ils l'ont vu, Moshe ne s'est pas rendu compte qu'eux voyaient, ou bien quelqu'un d'autre a vu et le leur a raconté. Et ils l'ont dit à haute voix à Moshe. Et ne peut leur importer que quelqu'un l'entende. Et du coup, Moshe Rabbeinu s'est demandé, est-ce que le clan d'Israël peut encore être libéré pour ça? Et donc, il faut expliquer pourquoi, parce qu'il y a des délateurs, le clan d'Israël ne mérite pas d'être sauvé. Il y a deux délateurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Géoula? Alors, je vous ai dit que c'est pour moi, simplement, ça veut dire qu'ils ne sont pas un peuple. Mais le Rav Volbe, il dit, la Géoula, c'est un sod. Et si quelqu'un n'est pas capable de garder un sod, de garder un secret, donc, il ne peut pas recevoir la Géoula. Et délateurs, c'est les gens qui ne sont pas capables de garder un secret. Donc, il n'y a personne pour que la Géoula puisse descendre, enfin, se fixer, parce que personne n'est capable de la recevoir. Au sujet de l'importance de garder un secret, Chazal sont extrêmement sévères. Dans la Gemara, dans Sanhedrin, on dit que si on discute dans un tribunal, il y en a deux qui disent qu'il est chayav et un qui dit qu'il est patour, lui, on n'a pas le droit de sortir du tribunal. On a déjà parlé de ça. Et dire, mais moi, j'avais pensé qu'il était innocent, mais qu'est-ce que je peux faire? Les deux autres, ils pensaient, ils étaient majoritaires. Et la Gemara rapporte un Talmid qui, après 22 ans, a dévoilé qui est-ce qui avait, il était dans un tribunal, et il a dévoilé qui avait dit qu'il était Khayav et qui a dit qu'il n'était pas tout. Ils l'ont viré de la Yeshiva. 22 ans, tu ne sais pas garder un secret. Le Midrash, il y a un Midrash terrible dans Shocher Tov sur Tehilim. qui dit que au temps du roi Shaoul, les enfants, ils connaissaient même tête panim ba Torah. Les enfants, ils connaissaient parfaitement la Torah. Donc, ça veut dire juste que les enfants, tout le monde connaissait la Torah. Et néanmoins, quand ils ont fait la guerre, ils ont perdu la guerre. Et au temps du roi Achav, qui était un roi super idolâtre, tout le monde était idolâtre à son époque, pratiquement. Quand il faisait la guerre, il gagnait la guerre. Chazal disent qu'au temps d'Achav, il n'y avait pas de délateur. La preuve, c'est qu'au temps d'Achav, on va dire qu'il a réussi à cacher 100 prophètes. Isabel, sa femme, elle voulait tuer les prophètes. Et Ovadia, qui était l'intendant de Achav, il a caché les prophètes dans deux endroits. Et on les a nourris, ces prophètes. Donc tout le monde, les gens savaient. Mais personne ne l'a jamais dévoilé à Achav et à Isabel. Donc toute la Torah, à l'époque de Shaoul, ne leur a pas permis de gagner la guerre, parce qu'il y avait des délateurs. Être capable de garder un secret, ça doit être une des réalités du clan d'Israël. Si dans le clan d'Israël, on n'est pas capable de ça, alors on n'est pas du tout à la hauteur. Alors non seulement il faisait pas attention, il en parlait à haute voix, les gens, c'est Datan et Aviram, mais en plus, Midrash dit qu'ils sont allés le raconter à Paro. Tous les Gdolim ont fait des choses sans qu'on sache ce qu'ils ont fait. On ne sait pas ce qu'ils faisaient. Des fois, après la mort, alors il y a tout coup des gens qui arrivent et qui disent « Mais qui est-ce qui va me donner à manger ?» C'était cette personne qui me donnait à manger tous les jours. Personne ne le savait. Alors ensuite, donc Moshe Rabbeinu le sait, et il va devoir s'enfuir. Parce que Paro bikesh la roguet Moshe, vaivrach Moshe mipne Paro, le pasuk dit vayeshev beretz Midian, vayeshev al haber. Le pasuk dit quasiment dans la suite, il est parti d'Égypte et puis on dit, Il s'est installé dans le pays de Midian et il est allé au puits. Il est allé au puits. Rashi dit que quand on dit qu'il a essayé de tuer Moshe, dans le passage, quand on lit, nous on lit un peu, voilà, il a essayé de le tuer, mais Moshe s'est enfui. Mais Rachid dit pas comme ça. Rachid dit, Masro, le costinaire, l'orgo, velochal tabo acheret. C'est pour ça que Moshe Rabbé nous dit, Veyatsileni, Micheref Paro. Hachem a sauvé du glaive de Paro. Et qu'en réalité, il a été condamné à mort, il était là, mais ils n'arrivaient pas à le tuer. Ils ne sont pas arrivés à le tuer. Et à ce moment-là, il s'est enfui. Mais d'abord, il était dans les mains de Paro et il s'est enfui après qu'on ait essayé, que Paro ait essayé de le tuer. Donc, il a voulu se marier. Donc, il est allé au puits. Rachidi, il a pris ce prix modèle sur Yaakov. Qui aussi voulait se marier, il est allé au puits. Ensuite, on nous parle du mariage, enfin, de la rencontre de Moshe avec les filles de Yitro. Mais en réalité, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Parce que quand on fait le compte, des années, il y a un énorme trou dans le CV de Moshe Rabbeinu. Parce que quand il a eu ce problème et qu'il a dû fuir, il n'est pas parti tout de suite en Égypte. Il n'est pas parti à Midian tout de suite. Il y a des Midrashim qui disent qu'entre-temps, il va devenir roi à Kouch. Alors Kouch, c'est un royaume, je ne sais pas si c'est le Soudan ou l'Érythrée, ou je sais pas, un peu cette région là-bas. Et j'ai vu récemment, il y avait là-bas toute une civilisation formidable qui était très influencée par l'Égypte. Ils ont des pyramides également, etc. Et à un moment dans l'histoire de l'Égypte, il y a une époque qui s'appelle l'époque des pharaons noirs. Et ces pharaons noirs, c'était des gens de Kouch. Parce que Kouch, qui était admiratif de l'Égypte et qui copiait l'Égypte, à un moment donné, ils sont devenus plus forts que l'Égypte et plus importants que l'Égypte. Et c'est eux qui ont dominé l'Égypte. Et à ce moment-là, il y a eu des pharaons, des pharaons qui étaient noirs, qui étaient ces gens-là sont noirs, les Soudanais, je sais pas exactement à quel pays ça correspond. Et Moshe Rabbeinu, il est allé quasiment dans l'autre Égypte, quoi, quelque part. Avant d'aller à Midian, il est allé là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, il y avait une guerre. Et justement, le roi de Kouch, il n'arrivait pas à gagner la guerre depuis longtemps. Et quand Moshe est arrivé, bon, je ne me souviens plus exactement ce que dit le Midrash, comment il est arrivé là-bas. Moshe Rabbeinu a donné des conseils qui leur ont permis de gagner la guerre. Et immédiatement après, le roi de Kouch est mort. Et ils ont nommé Moshe roi. Très bien, il est roi à Kouch. Il y avait une condition, c'est que le nouveau roi doit épouser la veuve. Alors formellement, selon les lois de Kouch, Moshe a épousé la veuve. Mais bon, il ne s'est pas beaucoup occupé d'elle. Et au bout de quelques années, elle en a eu marre. Et elle a dénoncé le roi comme quoi il ne s'occupait pas d'elle. Alors Moshe a dû fuir, du coup. Et c'est à ce moment-là qu'il a fui, qu'il est allé chez Yitro. Mais quand il est arrivé chez Yitro, alors on va dire rapidement là, il est au puits, Yitro, il n'a que des filles. Alors elles viennent pour puiser l'eau, mais elles ont des problèmes avec les bergers. Et normalement, elles peuvent passer les dernières. Et quand les bergers ont voulu embêter les filles de Yitro, Moshe s'est interposé. Et il a abreuvé les troupeaux des filles, en question. Elles sont arrivées chez leur père et leur père a dit, mais comment ça se fait que vous êtes si tôt aujourd'hui? Alors elles ont dit, Ish Mitzri, Itzilanu, Yad Aroim. Il y a un Égyptien qui nous a sauvés des, donc, nous a protégés des bergers. Et il a puisé l'eau pour nous et il a abreuvé les troupeaux. Le troupeau. Alors, il a dit, Vayomeret Benotav, Veayo, mais où il est? Namazé Azavtan et Aïch, comment vous avez pu l'abandonner? Appelez-le. On peut faire un mariage. Il va peut-être épouser l'une d'entre vous. Et donc, on l'a appelé, etc. Et il a habité longtemps chez son beau-père, qui lui a donné Tsipora, sa fille, comme épouse. Et ça va très, très, très vite. On nous dit tout de suite, il a eu un fils qu'il a appelé Gershom, parce qu'il a dit « Ger Haïti Beres Nochia ». J'étais étranger dans un pays étranger. Bon, il va voir un peu les questions. Voilà. Alors, Paro lui a, pardon, Yitro, en fait, quand Moshe Rabbeinu a raconté, le Midrash dit que quand Moshe Rabbeinu a raconté Yitro, bon, il lui a raconté sa vie, et il lui a dit qu'il avait donc tué un Égyptien, et que, etc. Yitro, c'est un des trois conseillers de Paro. Il y avait trois conseillers de Paro, Bilam, Yitro et Iov. C'est Bilam qui a donné le conseil de noyer les petits garçons. Iov, il est resté conseiller, mais Yitro, il était pas d'accord du tout. Et il s'est enfui, il est devenu une persona non grata en Égypte. Et comme il était probablement quelqu'un de très important, donc c'est quelqu'un qui devait en connaître un long bout dans toutes sortes de choses. Il est devenu grand prêtre, une espèce de chef à Midian. Mais il avait une mentalité encore tout à fait égyptienne. Et quand Moshe lui a dit qu'il avait tué un Égyptien, Yitro, il a pris Moshe, il l'a mis dans un trou, dans un puits. Il l'a condamné à mort, quoi. Et Moshe était dans ce puits-là, il allait mourir. Mais une des filles de Yitro lui a donné à manger. Et ça a duré 10 ans. Pendant 10 ans, Moshe était au fond du trou, là, nourri par Tsipora, par celle qui allait devenir sa femme. Et au bout d'un certain temps, il est sorti. Et bon... Il a dû négocier, je ne sais pas, ou bien Yitro s'est calmé un peu. Et il lui a donné sa fille, mais il a mis plein de conditions. Et une des conditions, c'est que Moshe s'était engagé à ne pas quitter Midian sans l'accord de son beau-père. Il s'était aussi engagé à ce que son fils ne soit pas éduqué. Soit pas éduqué comme un non-idolâtre. On laisse le fils faire le même chemin que Yitro. Yitro, c'est quelqu'un qui a tout essayé. Et là, quand, vers la fin, il va se convertir. Il va reconnaître Hachem, etc. Mais entre-temps, il a fait un chemin. Et lui, il pense et il veut que son petit-fils fasse le même chemin. Il veut que son petit-fils ne soit pas éduqué directement selon les valeurs de Moshe, les valeurs d'Abraham Avinu, mais qu'il trouve par lui-même. Puis il dit, puisque j'ai trouvé, ça veut dire, si on cherche, on trouve. Mais ça ne va pas se passer aussi bien. Alors maintenant, quand il dit, voilà... il a son fils et il le nomme Gershom. Il va avoir un deuxième fils encore, mais pour l'instant, c'est pas encore marqué. Ensuite, on a parlé ici donc de Moshe qui est chez Yitro. Et maintenant, on revient en Égypte. Le roi d'Égypte meurt. Et donc, la situation s'aggrave et les Bnei Israël n'en peuvent plus. Vaïzaku, Vatal, Shavatam, Ela, Elohim. Mino avoda vaishma Elokim et Sakatam, vaiskor Elokim et Brito et Abraham et Yitzhak et Yaakov. Vayar Elokim et Bene Israël, vayeda Elokim. D'accord. Donc voilà, Moshe Rabbe, en gros, on peut dire, Hachem a décidé que c'est la fin de l'exil. Et Moshe est toujours en train de faire paître le troupeau de son beau-père. Et il arrive à un endroit qui s'appelle Har HaElokim, Horev. Horev, c'est l'autre nom du Sinaï. Mais le Sinaï s'appelle, d'après ça, la montagne d'Elokim, qui fait un peu problème parce que, a priori, la montagne d'Elokim, c'est plutôt Har HaMoria. Il y a des Midrashim qui disent que le Moria s'est déplacé au moment de Matan Torah, il est venu sur cet endroit-là, bon. En tout cas, il est au Horev, c'est-à-dire au Sinaï. Et à ce moment-là, Moshe a cette fameuse vision de ce qu'on appelle le buisson ardent. Il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et Moshe Rabbe nous dit, je vais aller voir ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'il ne se consume pas, ce buisson? Alors, regardez. Vayar Hashem qui sar lirot. Hachem a vu que Moshe Rabbeinu s'approchait pour voir. Vaikra Elav Elokim mitochasne. Intéressant, on a changé de nom divin là. C'est Hachem qui a vu et c'est Elokim qui appelle. Vayomer Moshe, Vayomer Hineni. Il l'appelle et là aussi c'est intéressant que Moshe Rabbeinu répond. Il répond à l'Avraham Avinu. À la Yaakov Avinu, quand Hachem les appelle, ils répondent Hineini. Hineini, ça veut dire me voici, je suis complètement disponible. Mais oui, qu'est-ce qu'il sait, Moshe, de... Il allait voir un buisson qui brûlait. Et il y a Elohim qui lui parle. Il dit, je suis là, je suis prêt. C'est quoi? Il a entendu une voix et il a dit, je suis prêt. Et Elohim lui dit, Al tikra balom, shana alecha me'al raglecha, ki amakom asher, ata omed alav, admat kodeshu. Alors, Elohim lui dit, ne t'approche pas plus, enlève tes chaussures. Cet endroit sur lequel tu te tiens, il s'appelle Admat Kodesh, une terre du Saint. Alors, Admat Kodesh Hu, dans la grammaire, c'est un peu difficile. Adama, c'est féminin, et Hu, c'est masculin. Alors, dans le Sifte Chachamim, c'est marqué, donc il fait remarquer que Adama, c'est la Lachon Keva, Hu, c'est la Lachon Zachar. C'est la raison pour laquelle Rashi dit Admat Kodesh Hu Hamakom. Ça veut dire « où ?» Ça veut dire, ça parle du Makom. Et makom, c'est au... Makom, c'est masculin. Bon, alors c'est en fait, il y a beaucoup à dire sur cette vision du buisson, mais on va néanmoins avancer. Et donc il continue à lui parler, il lui dit, Anochi, Eloke Avicha, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, je suis le Dieu de ton père. Je suis celui, donc, le Dieu d'Abraham, d'Israël et d'Yaakov. Et Moshe a caché son visage. Qui yare me habite la Elohim. Il avait peur de regarder dans la direction d'Elohim, de celui qui lui parlait. Vayomer Hashem. C'est curieux ce passage, Elohim, Hashem. Vayomer Hashem, Rao haiti et oni ami, asher mitzraim, ve'et zakatam shamati, mipne noksav, yadati et machobav. Donc Hashem lui dit, voilà, j'ai vu les souffrances de mon peuple, etc. Va'ered la tzilo miyad mitzraim. Et je vais descendre. Je me suis dévoilé déjà, en fait. Pour le sauver des mains de l'Égypte, Vela Haloto, Mila Aret Saï, El Eretz Tova ou Chava, El Eretz Avat Chala Voudvash, El Mekoma Knaani, Vachiti, Vaimori, Vaprizi, Vachibi, Vaivusi. Et donc voilà, je vais les sauver des Égyptiens, le faire monter de ce pays vers le pays, d'un bon pays, Eretz Avat Chala Voudvash. Coule le lait, le miel, là où se trouvent tous ces peuplades cananéennes, en vérité. Ve'ata, et maintenant, iné tzakat bnei Israël ba'elai. J'ai entendu la plainte, les cris des bnei Israël. J'ai aussi vu, parce que vous connaissez la Agada Pesah, et alachat, sacham Israël, lochatsim otam. Ve'ata, et maintenant, lecha va, ve'eshlachacha, on revient. Je vais t'envoyer le paro veotse et ami et sors mon peuple, Bnei Israël, Mimitsraï. Donc, la shlichut de Moshe Rabbeinu, c'est de sortir les Bnei Israël d'Égypte. Hachem a dit, j'ai un projet, je vais les sortir d'Égypte et puis les amener, mais a priori, la shlichut de Moshe, c'est les sortir d'Égypte. Là, vous voyez que Hachem dit « Mon peuple, Votse et Ami, Bnei Israël. » Mon peuple, Bnei Israël. Au début de la paracha, c'est Paro qui parle du peuple et Am Bnei Israël. Ce n'est pas Am Israël, mais le peuple qui s'appelle Bnei Israël. Leur nom, ce n'est pas Israël. Leur nom, c'est Bnei Israël. C'est ce qu'ils sont effectivement. Le peuple, c'est les descendants d'Yaakov. Bnei Israël. Descendants d'Israël, Yaakov. Donc il lui dit, voilà, je t'envoie. Rashi dit, Vim Tomar Matoil, Vyotse et Ami. Comment ça va marcher? Yoil ou Dvarecha, Vyotsiem Misham. Tes paroles, elles vont servir, elles vont être utiles, elles vont être efficaces, tu vas les sortir de là-bas. Donc Hachem ne dit pas « je vais les sortir ». Il a dit « Vaered la Hatsilo, je suis descendu pour les sauver des mains des Égyptiens et les amener en Eretz Israël. Moi, je vais faire ça. Mais toi, toi tu vas, c'est toi qui veux les sortir d'Égypte. » Alors Moshe Rabbeinu nous dit « mais mi anochi, qui est l'échel paro ?» Mais qui suis-je que je pour aller chez Paro? À quel titre je vais aller chez Paro? En quoi suis-je qualifié? C'est important pour parler avec les rois. Priotsiet ben Israël, Bafim Khashuvani, et même si je peux parler, Azma Zachou Israël, Shiasulaem Nes Beotsiem im Israël. En quoi est-ce que les Bnei Israël ont mérité qu'on leur fasse un miracle et que je les fasse sortir d'Égypte? Oui. Donc, mon cher Abel lui dit, mais c'est pas possible.
Est-ce que Moshe, peut-on dire que Moshe, il s'oppose en fait au plan d'Hachem ou premièrement?
Oui, il dit, je peux pas. Je suis personne et je peux pas. Est-ce que Hachem lui a encore pas dit qu'il allait l'aider? Alors Hachem lui répond, Vayomer, qui? Eyé Imach, tu demandes comment tu peux, etc. Mais parce que je serai avec toi. Et il lui dit, Vezelecha haot ki anochi shlachticha. Voilà pour toi un signe, le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. C'est très étrange. Votsiacha et ta'am mimitsraim, quand tu sortiras les Bnei Israël d'Égypte, Ta'avdun et ta'elokim al haharazé. Vous servirez Elohim sur cette montagne. Voilà. Donc, Moshé a l'argument au départ quand il dit évidemment, je ne peux pas, je ne suis personne. Alors Hachem lui dit, mais évidemment, je serai avec toi. Et alors, qui est Yimach? Donc, ça veut dire Eshivo, al Rishon Rishon, al Acharon Acharon. Il répond point par point. Quand tu as dit Mi Anochi, qui est l'Echel Paro, l'Onchel Chai, qui est Micheli, qui est Yimach. Ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Je serai avec toi. Vezé amare asher raïta basne le chaot, et la vision que tu as vue, ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas, c'est qui anochish l'articha betatsliach beshlichuti. C'est la preuve que c'est moi qui t'envoie, qui t'ai envoyé, et que tu vas réussir dans ta tâche. Okedai ani il est atzil. Et moi, je suis capable de sauver. Kasher raïta asne osse shlichuti venenu uchal. Comme tu vois, le buisson, il fait ce que je lui ai dit de faire, il brûle et il ne se consume pas. Karteler b'shlichuti, de la même manière, toi, tu vas faire ce que je t'ai envoyé faire, et je te garantis qu'il ne t'arrivera pas de mal. Comme le buisson, il ne lui arrive pas de mal, il n'est pas détruit. Maintenant, tu poses une autre bonne question. Quel est le mérite des Bnei Israël pour sortir d'Égypte? Tabargadol Yeshli, Alotsaazu. J'ai un grand projet avec cette sortie-là. Sheare atidim le kabel la Torah à la harazé. Le sof shlosha chodashim sheyetsu mimitzrayim. Ils vont accepter la Torah, ils vont recevoir la Torah, pardon, sur cette montagne-là, 3 mois après la sortie d'Égypte. Autre chose. Qui aye imach, veze shetatzliach b'shlichutcha, lecha le haot à la avtacha acheret, c'est un signe sur une autre promesse, shani mavtichacha, shekshetotziem mimizraim, ta'avdun oti à la harazé. Donc tu les as, je te promets que vous allez me servir sur cette montagne. J'étais kablou à Torah à lave. Sur cette montagne, vous allez recevoir la Torah. Vi à Srout à Omed et l'Israël. Et c'est ça le Srout du clan Israël. Tu m'as demandé quel Srout ils ont. Première réponse. Quelle était la première réponse à la question de Moshe Rabbeinu? Hachem lui a dit, Shalta ma Srout yesh l'Israël. Davar gadol yesh li ala otsazu. Cheratidim le kabel ta Torah. Leur srout, c'est qu'ils vont accepter la Torah recevoir la Torah sur cette montagne au bout de 3 mois. Et ici, le davar acher, c'est quoi? Le srout, c'est ta'avdu noti. Vous allez me servir sur cette montagne. Alors, c'est intéressant parce que c'est marqué le hot, c'est ta'avdoun oti. D'après, virgule, j'et kabel la Torah alav, vei asrut haomed et l'Israël. Là, il dit que le srout, enfin le, oui, c'est ça. Le srout, c'est que vous allez me servir sur cette montagne. Alors, comme on sait, ils n'ont jamais fait d'avoda sur le Sinaï. Mais après, c'est écrit que la Kabbalah Torah, Elle vaut avoda. Il n'y a pas d'avoda concrète. On n'a pas, il n'y a pas eu de construction d'un misbéach, etc., avec des corbanotes ou quelconque avoda sur le Sinaï lui-même. Le Sinaï, quand Hachem a terminé de parler au Bnei Israël, il est redevenu une montagne quelconque. Les troupeaux ont pu de nouveau aller paître sur cette montagne. Donc c'est une promesse. Vous allez le faire. Il apporte des preuves que d'autres exemples qui a un hôte sur une promesse. Un signe sur une promesse. Bon, alors maintenant c'est concret. Vayomer Moshe Ela Elokim, Ine Anochiba El Bnei Israël, Vamarti Laem Eloki Avotechem Shlachani Elechem, Vamrouli Mashmo Ma Omer Alem. Ok, alors, si j'y vais, ils vont me demander, mais qui est-ce qui t'envoie? Quel est son nom? Moi, je ne connais pas ton nom. Alors, c'est... Voilà. C'est... Le Rashbam, ici, il dit, Mahomer Aleem, qu'est-ce que je vais leur dire? Je me demande le nom. Alors, il dit, donc, il dit, Eni Makir Biodea Shimcha Miuchad, je ne connais pas ton nom spécifique. Alors, Vayomer Elohim El Moshe, Hachem lui répond à cela. Il répond, Eke Asher Eke, c'est ça mon nom. Le Rashbam, il dit, Im Encha Yodea Shemi, si tu ne connais pas mon nom, Ani Omer Lecha Kishmi Eke Leolam. Mon nom, c'est « Je serai éternellement ». Comme j'existerai toujours, je pourrai toujours accomplir ce que j'ai dit, la promesse. « Omeatash et amarti » et dès lors que je t'ai dit Kishmi Eke, Kotomar l'Israël, Eke Shlachani Alechem. Mais, il lui dit, Kotamar livne Israël et Kesh lachan yalechem. Tu leur diras, et Kesh vous a envoyé auprès de vous, Vayomerod Elokim el Moshe, Kotamar livne Israël, Kotamar el Bne Israël, Hashem Elokei avotechem, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Shlachani Alechem, Ze Shmi Leolam, Ze Zichri Le Dor Dor. Donc, il dit, mon nom, c'est Eke. Mais c'est pas l'onae chez Kru Oti Bishmi Bro Divriem. C'est pas beau qu'il me nomme chaque fois qu'il parle avec mon nom. Kishem Shein Korim Amlachim Bishmam. De même qu'on ne nomme pas les rois par leur nom, dont on ne les interpelle pas par leur nom. Et là, Hashem Elokei Avotechem, ou Lashon Adnut ou Malchut, c'est le maître, c'est le roi, que Shem Shomrim Lamlachim Yechi Amelech, Amelech Tzivani Davar, etc. D'accord? On ne dit pas son nom. Alors, tu leur diras, je t'ai dit leur nom, tu pourras leur dire, mon nom c'est ça, mais ce n'est pas comme ça que vous allez m'appeler. Tu leur diras, Hashem Elokei Avotechem. Hashem, le nom de, le Dieu de vos pères, Elokei Avraham Yitzhak Yaakov, Shlachani Alechem. Ze Shmi Leolam. C'est ça mon nom. Le Alam. Il manque le Vav. Ze Zichri le Dor Dor. Rashi dit, Ze Shmi Leolam. Chaser Vav, il manque le Vav. Après, entre le Haïn et le Lamed, ça vient dire Elimeu Shelo Ikare Kektavo. Il lui a caché pour pas qu'il puisse le lire comme on le lit, comme on l'écrit. Zezichri Limdo Ech Nikrao. Il lui a enseigné comment l'appeler. Reine David ou Omer, Hashem Shimcha Leolam, Hashem Zichrecha Ledo Vador, c'est ton nom pour l'éternité. Hashem, c'est comme ça qu'on te mentionne pour toutes les générations. C'est-à-dire, en fait, Hashem, c'est une façon de. C'est le nom. Je ne dis pas le nom. Le nom, c'est Eke. Enfin, en vérité, Eke, Asher et Eke. Ça, le nom. Ce n'est pas comme ça qu'il veut être appelé. Il veut qu'on l'appelle Hachem. Ou Eloke Avotechem, mais voilà. Alors tu vas les rassembler, tu vas leur dire, voilà, je vais vous sortir d'Égypte et vous amener vers la terre d'Israël. Veshamu le kolecha, uvata ata vezikne Israël el melech mitzrayim, v'amartem elav, Hashem Elokei o ivriim nikra aleinu, v'ata nelchana derech shloshet yamim, v'amidbar, Venisbecha l'Hashem Elokeinu. Et là maintenant, Hashem dit à Moshe, les Bnei Israël vont t'écouter, et toi et les anciens d'Israël, vous allez aller chez le roi d'Égypte, et vous lui direz, Hashem Elokei Aivrim, Hashem, le Dieu des Hébreux, Nikra Aleinu, il s'est manifesté pour nous, et maintenant, Nelchana, derech shloshet yamim bamidbar. Nous voulons aller à 3 jours de marche dans le désert d'ici. Venisbecha l'Hashem Elokeinu. Pour faire un korban pour Hashem, notre Dieu. Et ce n'est pas du tout ça la shlichut de Moshe. Pourquoi la. Il lui dit pas, voilà, Hachem a dit, vous allez sortir d'Égypte. En plus, il lui dit quelque chose qui ensuite va être problématique, parce qu'il dit qu'on veut partir 3 jours. En fait, ils veulent partir tout le temps. Mais pas, Hachem ne lui a pas dit, dis-lui qu'on veut aller servir Hachem. Dis-lui, vous voulez sortir? Hachem a dit qu'il fallait sortir. On va ailleurs, on s'en va. Si c'est un problème, cette histoire des 3 heures, des 3 jours, c'est comme si on avait menti en quelque sorte. Parce que vous savez bien que quand les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, alors Paro va envoyer des gens qui vont les suivre. Et quand au bout de 3 jours, ils vont voir qu'ils ne reviennent pas, alors ils sont venus dire à Paro, dis-moi, ils sont partis définitivement. Alors Paro a dit, alors on va aller les chercher. C'est-à-dire que Paro, jusqu'à la fin, il s'imagine, parce que c'est ce qu'on lui a dit, qu'il partait pour 3 jours. C'est quoi cette histoire-là? On parle de 3 jours et puis après on part pour pas. Mais en vérité, c'est pas vrai. Il part définitivement. Voilà, on va s'arrêter là.